Vous écoutez RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Merci d'écouter la première radio de France, le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, deux affaires, mais un seul suspect.
Nordal Lelandais, mis en examen pour le meurtre de Maëlys, est actuellement en garde à vue pour une autre disparition, celle d'un jeune militaire au printemps dernier à Chambéry. L'enquête sur l'accident de Mias, la clé de l'énigme, se trouve sans doute sur les barrières du passage à niveau. C'est elles qui vont parler. Le bilan est désormais de 6 morts. Dans l'actualité également, le patron de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, qui dénonce sur RTL qui demande des sanctions contre le syndicat Sud Éducation qui organise en ce moment ses fameux ateliers en non-mixité raciale.
Le syndicat Sud réagit pour la première fois et c'est sur RTL ce matin. Nous serons avec Aurélien Boudon, co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation à 8h20 et nous aurons 6 minutes pour trancher.
Et puis l'État se sert-il, oui ou non, la ceinture? Ce sera la question du 8h alors qu'on apprend que le nombre de fonctionnaires est reparti à la hausse l'an dernier.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Ce sont deux affaires en apparence distinctes mais qui ont désormais un seul suspect. Nordal Lelandais, déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys fin août en Isère. Il a passé la nuit en garde à vue. Bonjour Serge Peillot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Nordal Lelandais est entendu dans le cadre d'une autre disparition, celle d'un jeune militaire en avril dernier.
Oui, le caporal Arthur Noyer a disparu le 12 avril dernier dans le quartier du Carré Curial à Chambéry, alors qu'il avait passé la soirée en discothèque. Or, les gendarmes ont découvert que le portable de Nordal Lelandais avait borné à plusieurs reprises le même jour dans le secteur où le jeune militaire a disparu, indiquant même une possible proximité entre les deux hommes. Les enquêteurs pensent que le caporal Noyer a pu monter vers 4 heures du matin dans la voiture de Lelandais. Enfin, après la disparition du militaire, Nordal Lelandais a consulté courant avril plusieurs sites internet expliquant comment faire disparaître un corps.
Merci Serge Peillot. Guillaume Chiez nous a rejoint. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Comment les enquêteurs sont-ils parvenus à faire le lien entre ces deux affaires qui n'ont rien à voir?
Eh bien c'est de l'humain tout simplement, de l'intuition d'enquêteur, du flair, on peut appeler ça comme on veut. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en gendarmerie, à chaque fois qu'il y a un crime non résolu, une cellule de veille se met en place et elle reste active, attentive aux différents éléments qui pourraient être en lien avec le crime dont elle est saisie. C'est le cas pour le caporal Noyer disparu en avril dernier. Les enquêteurs restent aux aguets sur ce qui se passe dans la zone. Il y a évidemment l'affaire Maëlys à une petite trentaine de kilomètres de là. Les enquêteurs ont donc comparé dans un logiciel qui s'appelle Anacrime les différentes données qu'ils ont recueillies sur ces deux affaires, les témoignages, les heures, les constatations de la vidéosurveillance. Et finalement, ce sont les téléphones qui ont matché, comme on dit. Après la machine, retour à l'humain désormais. Nordal Lelandais est placé en garde à vue, interrogé sur sa soirée passée dans la même boîte de nuit que le caporal Noyer ce soir-là. Car évidemment, le fait que deux téléphones bornent au même endroit ne suffit pas à transformer un suspect en coupable.
Merci Guillaume Chiez.
On en vient à cette autre enquête, hein, celle qui concerne la catastrophe ferroviaire de Mias près de Perpignan.
Un accident qui a fait 6 morts, c'est le tout dernier bilan, un 6e enfant qui a succombé à ses blessures. Le procureur reçoit aujourd'hui les familles des victimes, il doit leur donner les derniers éléments de l'enquête. On a tout entendu hein, concernant les barrières du passage à niveau. Certains témoins ont dit qu'elles étaient levées quand le train est arrivé, d'autres qu'elles étaient baissées. Comment trouver la vérité? C'est tout le travail de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, dont le directeur, Patrick Touron, était l'invité de RTL ce matin.
Grand principe de criminalistique de base. Lorsqu'il y a un contact, il y a un transfert de matière. Donc regardons ces barrières. Si elles ont été en contact avec le car, il suffit de regarder à quel endroit et s'il y a eu échange de matière. Est-ce que de la peinture du bus se retrouve sur la barrière? Est-ce que de la peinture de la barrière se retrouve sur le bus? Est-ce qu'il y a eu un impact? Cet impact, au regard des résistances propres de chaque matériau, ont-elles procédé à une déformation? Vous avez des photographies qui ont été prises très rapidement, vous avez des témoignages, même si nous savons que j'ai lu récemment une neuroscientifique qui a prouvé qu'on pouvait s'inventer hein, des témoignages. Lors d'un stress, hein, leur témoignage peut être fragilisé du fait de ce stress. Il ne faut pas oublier, dans le cas présent, pour l'instant, nous n'avons affaire qu'à des victimes.
Le colonel Patrick Touron, qui était l'invité de RTL à 7h15. C'est une arme utilisée par les policiers qui régulièrement critiquaient le flashball qui tire des balles en caoutchouc, tue une victime sur 37, d'après une étude de chercheurs américains. 15% des personnes visées subissent une infirmité permanente.
RTL Matin, 8h05.
Les agriculteurs manifestent aujourd'hui à Paris.
À l'appel de la FNSEA, ils dénoncent l'ouverture des frontières depuis l'accord de libre-échange avec le Canada. L'agriculture est un secteur qui souffre. Le nombre de liquidations et de redressements judiciaires a continué d'augmenter cette année, d'après l'INSEE, alors que les voyants sont au vert pour tous les autres secteurs économiques. Dans ce contexte, l'implantation des Chinois chez nous, en France, suscite une vive inquiétude dans le monde paysan. De plus en plus de terrains sont rachetés très cher et c'est tout un marché aujourd'hui qui est menacé. Reportage dans l'Allier de Guillaume Frixon.
À Montbeny, dans ce village de l'Allier, Jean-Marc le dit, ici, tout le monde connaît le propriétaire alsacien des 900 hectares de terres céréalières répartis sur différentes communes et vendus à prix d'or à une société chinoise.
De toute façon, ce monsieur arrivant à un certain âge, il savait très bien que ses propriétés allaient poser problème à ses héritiers. Il fallait trouver des finances en face. Et en plus, avec les Chinois, ils les achètent quand même pas mal cher.
Car pour acquérir matériel, bâtiment, terrain et 3 salariés, l'entreprise de Pékin aurait déboursé près de 10 millions d'euros, soit près de 3 fois le prix du marché local. Problématique pour Gilles Cabard, président de la FNSEA de l'Allier.
Ça va faire monter le prix des terrains, ça empêche des jeunes de s'installer et ça nous retire de la compétitivité puisqu'on sera de plus en plus dans l'incapacité les agriculteurs voisins d'acheter.
Alors Jean-Marc, retraité et fils d'agriculteur, voit cette acquisition avec une certaine fatalité.
Là, on est dans la mondialisation. A priori, c'est pour faire des productions qui partent nourrir le pays dont viennent les capitaux.
En Auvergne, d'autres terrains agricoles sont d'ores et déjà convoités par les Chinois, notamment dans le département voisin du Puy-de-Dôme.
Un reportage signé Guillaume Frixon. C'est une information RTL de Jean-Alphonse Richard. Les premières indemnisations pour les victimes du lévothyrox devraient être versées dans un an, ce qui est assez rapide dans ce genre de procédure. Le tribunal d'instance de Lyon, saisi par un collectif de malades, examinera leur demande en octobre 2019. Le jugement sera rendu en décembre.
Dans un instant, les fonctionnaires de plus en plus nombreux en France.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal. Jérôme Florent, Yves Calvi.
Le nombre de fonctionnaires a donc augmenté en 2016, d'après les tout derniers chiffres de l'INSEE.
Plus 0,4% en un an, ils étaient le 31 décembre dernier, précisément 5 670 000 après une année de relative stabilité.
Alors l'État se sert-il, oui ou non, la ceinture? Eh bien c'est la question du 8h.
Avec vous Anaïs Bouissou, bonjour.
Bonjour.
Les effectifs, on le constate, ne baissent pas. Alors elle est où l'économie?
Nulle part, il n'y en a pas. Vous avez en France toujours plus de fonctionnaires. En 10 ans, et malgré des discours officiels de suppression, voire de maîtrise des dépenses, ce ne sont pas moins de 400 000 postes qui ont été créés. Alors si on rentre dans les détails, tous les fonctionnaires n'ont pas été logés à la même enseigne. Jusqu'à présent, les régions, les communes, les départements embauchaient en masse, alors que les fonctionnaires d'État, profs et agents des ministères se serraient la ceinture. La seule nouveauté, c'est qu'on inverse les rôles. Il y a cette année plus d'enseignants, plus de postes au ministère de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, contrairement aux collectivités territoriales qui, elles, perdent des effectifs.
Alors, est-ce que ce mouvement global d'augmentation va se poursuivre ?
En théorie, non. C'est en tout cas la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le but, c'est de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 5 ans. Mais pour tenir sa promesse, le président va devoir mettre les bouchées doubles, car il n'a prévu pour l'année à venir que 1 600 emplois en moins. De 1 600 pour arriver à 120 000 suppressions, ça voudrait dire près de 30 000 postes à raboter tous les ans entre 2019 et 2022. Et autant vous dire que les syndicats de fonctionnaires sont déjà prêts à tout faire pour éviter que cela se produise.
La question du 8h avec Anaïs Bouissou.
En bref, à l'étranger, on en apprend encore un peu plus sur le massacre des Rohingyas en Birmanie. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants rassemblés près d'un fleuve pour des raisons officielles de sécurité, puis fusillés méthodiquement par l'armée. C'est ce qu'on découvre dans un rapport glaçant de l'ONG Human Rights Watch ce matin, qui dénonce des massacres clairement planifiés par l'armée avec la complicité des bouddhistes.
RTL Matin, 8h10.
Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure sur RTL, le député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, accuse le syndicat Sud-Éducation de racisme.
Et il demande des sanctions, ça doit être poursuivi en justice, dit-il. Alors ça, ce sont ces ateliers en non-mixité raciale organisés en ce moment à Saint-Denis, malgré les avertissements du ministre de l'Éducation. Ce stage, il est réservé aux enseignants. Il est intitulé « Où en est l'antiracisme à l'école ?» avec donc certains ateliers réservés aux Blancs et d'autres réservé aux racisés, c'est le terme employé par Sud. Alors à quoi ça ressemble? Quentin Vinet, vous êtes rendu sur place?
Oui, les enseignants sont une centaine répartis dans plusieurs salles. Il est question d'élèves racisés, de blanchité, d'histoire décoloniale et de posture dominante. Deux ateliers sont en mixte, un hier matin, un autre cet après-midi. Les participants échangent et racontent leurs expériences, explique ce professeur.
Eh ben, c'est vraiment de réfléchir ensemble à construire des outils de lutte, d'émancipation plus intellectuellement, plus solides.
Et un atelier a pour thématique le racisme d'État, un terme qui fait polémique, ce que peut comprendre cet enseignant quelque peu distant sur le sujet.
Ah oui, oui, on peut le comprendre tout à fait, on peut le comprendre, ouais, tout à fait, mais nous-mêmes, on y réfléchit ensemble, justement.
Mais les débats se font loin des micros et des caméras.
Voilà, mais je suis désolé, je suis...
Les participants préfèrent ne pas répondre aux questions. À cause de la polémique, un enseignant explique qu'il y a eu des menaces et que pour cette raison, des agents de sécurité sont postés à l'entrée.
Quentin Vinet, le syndicat Sud réagit pour la première fois. Il s'expliquera sur RTL. Nous serons avec Aurélien Boudon, qui est co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation, à 8h20. Vous aurez donc 6 minutes pour trancher.
RTL, 8h12.
C'est le casse-tête du Père Noël, à moins d'une semaine du grand jour. Hein.
Où cacher les cadeaux avant de les déposer au pied du sapin? À chacun sa méthode. Écoutez, reportage de Frédéric Veil.
À la sortie de ce magasin de jouets, Béatrice a les bras bien chargés.
C'est pour mes petits-enfants, donc ils vont être là que le soir de Noël. La maison est grande, c'est pas difficile à les cacher.
Placard, les...
Non, dans une chambre d'amis que je ferme et où ils ne vont pas. Donc voilà, elle est fermée à clé en attendant et ils essaient même pas d'y aller.
À l'approche de Noël, Bertrand lui est obligé de trouver une bonne planque.
Surtout pour les enfants qui fouinent partout. Vous voyez, dans les placards, dans le garage, c'est ce qui semblerait être le mieux en hauteur. Pour que personne les atteigne.
Oui, mais voilà, les enfants sont souvent plus malins qu'on le croit. Et l'or adolescente aujourd'hui avoue sans crainte avoir fouillé.
Les moindres recoins, les petits endroits, sous le lit, dans l'armoire. Et j'essaie de deviner les formes pour savoir ce que c'est à l'intérieur.
Ce qui réserve parfois quelques surprises, confie Thomas, 18 ans.
Je savais toujours en avance ce que j'avais. Et j'étais très déçu quand les cadeaux que j'avais vus ne m'étaient pas destinés.
Alors pour éviter les mauvaises surprises, éviter les placards, les dessous de lit, les dessus d'armoire, ou alors, mieux encore, confier tous ces cadeaux au Père Noël.
Frédéric Veil.
L'histoire du jour ?
Histoire de saison, puisque les policiers américains le surnomment le Père Noël criminel. Un cambrioleur coincé dans la cheminée d'un magasin en Californie n'a eu d'autre choix que d'appeler les secours avec son téléphone. C'est le seul geste qu'il pouvait encore faire. Il a pu être désincarcéré. Avant d'être incarcéré, la photo de son visage plein de suie prise par la police fait le bonheur des médias américains.
C'était le journal de Jérôme Florin.